Je vais déjà vous rassurer. Par empathie cognitive, je vais réduire mon propos pour ne vous priver ni du forum des partenaires, ni du déjeuner. Alors moi aussi, je suis très honorée d'avoir été invitée à m'exprimer devant vous. Je reconnais beaucoup de visages dans la salle, mais Iman m'a dit qu'il y avait également des personnes toutes nouvelles et que je devais donc donner à la fois le SMIC juridique pour les nouveaux et les évolutions auxquelles les plus anciens d'entre nous ont participé. Et le sentiment dominant de cette dernière intervention, c'est la satisfaction, parce que grâce à cette politique publique qui a été déployée avec ténacité et professionnalisme depuis une dizaine d'années, eh bien, nous voyons également dans le droit des évolutions extrêmement constructives. Alors, c'est Iman qui a choisi le titre. Regard sur l'évolution juridique de la notion, une éthique de la responsabilité. Je définis la responsabilité en droit, pas sous l'angle moral. En droit, la responsabilité, c'est l'obligation de réparer les dommages causés par son action. Cela, on le sait en général. Mais on oublie souvent la seconde partie de la phrase. Donc, obligation de réparer les dommages causés par son action et par son inaction. Et dans le champ du harcèlement, la responsabilité, elle va toujours arriver en creux. Elle va toujours arriver, non pas par quelque chose que l'on a fait, mais par une abstention, par quelque chose que l'on n'a pas fait. Et le second terme de ce titre, c'est l'éthique. C'est donc un questionnement qui renvoie à la posture. Quelle est notre posture? Quelle est la posture que nous devons promouvoir chez nos collègues, chez les élèves, avec nos partenaires, avec les parents? Alors, comment se bâtit cette posture éthique en quatre étapes qui vont du plus général au plus particulier? Je pars du dénominateur commun le plus large. Nous sommes avant tout des citoyens. Donc, le citoyen, qu'est-ce que c'est en droit? C'est la traduction juridique du troisième terme de la devise républicaine. On parle très souvent de liberté, d'égalité, on voit très bien ce que cela donne en droit. Et on pense parfois que le troisième terme, le terme fraternité, il est un peu vaporeux, il est un peu sentimental. Or, ce terme fraternité renvoie à la notion de citoyen qui est une interdiction juridique d'indifférence à ce qui arrive à autrui. Dans une société, les membres ne sont pas juxtaposés les uns aux autres. Ils sont reliés entre eux par une relation de solidarité. Cette relation de solidarité et d'aide empathique, elle est presque naturelle avec notre famille, avec nos amis, avec nos collègues, avec nos proches. Mais la République française, en inscrivant dans la devise le terme de fraternité, élargit cette obligation d'assistance à toute personne dont nous croisons la route. C'est l'intérêt, effectivement, de ne pas avoir le regard baissé. Et on peut considérer que cette interdiction juridique d'indifférence, elle se concrétise dans le code pénal par l'obligation de porter assistance à toute personne en péril, toute personne dont on croise la route. Même si, Aucun lien, aucune affinité, voire aucune sympathie ne nous lie à ce citoyen que nous croisons. D'une certaine manière, au nom de cette participation commune à la citoyenneté, la société nous invite à restaurer un lien fraternel envers les différentes composantes de la société. Alors, je n'ai pas le temps de développer sur l'obligation de porter assistance à personne en péril, qui n'est pas une obligation exorbitante. On ne nous demande pas de sauter à l'eau si une personne se noie, mais simplement de nous arrêter pour appeler les secours, même si ça nous fait perdre 10 minutes avant un rendez-vous professionnel important. Parmi ces citoyens, seconde étape de construction de la posture, certains sont choisis et très durement sélectionnés pour exercer une mission de service public. Ils vont donc entrer dans l'une des trois fonctions publiques. L'exemplarité, elle est au début, elle est au recrutement. Je dis souvent que si vous êtes ici, c'est soit parce que vous n'avez pas commis de crime ou de délit, soit parce que vous ne vous êtes pas fait prendre. Parce qu'effectivement, on regarde le casier judiciaire, parce qu'on ne peut pas confier une personne une mission d'intérêt général s'il n'y a pas cette exemplarité au départ. Et cette exemplarité, elle va demeurer tout au long de la vie, tout au long de la vie professionnelle. Et le fonctionnaire, il a un lien extrêmement étroit avec l'ordre public, avec la légalité, avec la loi. Et vous le savez sans doute, je n'ai pas le temps d'entrer dans le débat, faut-il faire des signalements au procureur pour les situations de harcèlement, nous ferons tout cela, je pense, dans les ateliers cet après-midi. Mais l'article 40 du Code de procédure pénale pose que le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, à la connaissance de faits qui peuvent être qualifiés de crime ou de délit, en informe directement et sans délai le procureur de la République. Même s'il n'y a pas de risque imminent pour la personne. C'est une des grandes différences entre le citoyen et le fonctionnaire. Je le pose parce que dans les traitements des situations, surtout aujourd'hui alors que le harcèlement est devenu un délit dans le code pénal, nous nous poserons cette question. Faut-il s'interdire absolument de faire tout signalement? Faut-il signaler quand, comment, sous quelle forme? Ce qui est également attendu d'un fonctionnaire, c'est qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'il met en place, de manière efficace et indépendamment de son intérêt particulier pour la matière, la politique publique telle qu'elle a été définie. Un fonctionnaire est donc quelqu'un dont on attend une action, une attitude proactive. Et dans le champ du harcèlement, les jurisprudences ont rappelé, par exemple, qu'il était nécessaire de mettre en place des protocoles de traitement et de vérifier que leur application soit effective. Parmi ces fonctionnaires, certains travaillent dans le plus beau ministère de France, celui de l'Éducation nationale, et dans ce ministère, il y a deux termes juridiques dont il faut bien mesurer les conséquences. Le premier terme, c'est celui de mineur. Nous travaillons à 90% avec des mineurs. L'étymologie pourrait être mauvaise conseillère, parce que mineur, ça veut dire plus petit, et dans nos représentations, mineur, ça pourrait vouloir dire moins de droits. Ce que je ne fais plus à mon voisin, le gifler s'il m'exaspère, par exemple, je ne vais pas forcément avoir la même maîtrise vis-à-vis d'un enfant ou d'un élève. Et je pense, peut-être de bonne foi, que c'est moins grave de frapper un enfant que de frapper un adulte. À part qu'en droit, c'est exactement l'inverse. Mineur, plus petit, veut surtout dire plus fragile et aussi être en construction. Donc toute atteinte est plus grave quand elle concerne un mineur. Donc vous mesurez à quel point le signalement doit donc être regardé comme une matière, comme une question absolument prioritaire au sein de nos écoles et de nos établissements. Le second thème juridique que nous allons trouver, c'est celui de l'adulte qui a autorité, la personne qui a autorité, Et là encore, nous pourrions avoir une représentation qu'il faut clarifier. Avoir autorité, c'est certes avoir un pouvoir, mais c'est aussi avoir une exemplarité. Et c'est bien évidemment une seconde circonstance pénale aggravante en cas de manquement. Donc vous voyez que tout cela nous place, mais je pense que c'était l'intention d'Imane, tout cela nous place dans une atmosphère générale de responsabilité. Enfin, parmi les personnels de l'éducation nationale, le chef d'établissement a des missions spécifiques, mais il n'est pas seul à porter cette mission. En revanche, étant chargé de la responsabilité et de la sécurité des personnes et des biens, il a le droit à obtenir de l'ensemble des personnels, de chacun des personnels, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien cette mission. Ceci, c'est le cadre juridique de la posture. Comment s'applique la question du harcèlement à cette posture que vous pourrez mettre en place pour les discriminations, par exemple, la protection de l'enfance? Voilà, la posture est la même, elle va venir s'incarner sur des objets. Qu'en est-il en ce qui concerne le harcèlement? Tout d'abord, nous avons alors trois lois extrêmement importantes. Vous voyez que le harcèlement, c'est aussi une ébullition juridique en ce moment, grâce à la recherche qui a montré les conséquences extrêmement négatives pour les personnes et pour la société, grâce à cette politique publique de prise de conscience dans différents champs des sciences humaines. Donc, avant la loi du 4 août 2014, nous ne trouvions pas le terme de harcèlement en milieu scolaire. Ça ne veut pas dire que les actes restaient impunis, mais nous devions rechercher d'autres qualifications. Les violences, les menaces, les insultes, la violence psychologique. Et puis, par la loi du 4 août 2014, vous remarquerez cette date qui n'est pas anodine. Donc cette loi a créé un délit général de harcèlement dans le code pénal, dans l'article 222-33-2-2. Vous irez le lire. Ce que je mets peut-être en évidence, c'est que l'acte est réprimé en soi et pas seulement pour ses conséquences. C'est-à-dire que même si la victime ne présente pas d'ITT, d'interruption temporaire du travail, le délit peut être caractérisé. Ce que ne savent pas toujours nos collègues de la police ou de la gendarmerie. Donc je compte effectivement sur ce grand réseau que vous constituez pour hausser le niveau général de formation juridique de l'éducation nationale et aussi de nos partenaires. Vous savez que le droit est beaucoup trop important pour être réservé aux juristes. Vraiment une matière qui appartient à l'ensemble des citoyens. Nous avons deux autres lois. Une loi du 7 octobre 2016 qui réprime le revenge porn, la vengeance pornographique. Le fait de retweeter une photographie intime qui a été obtenue par le consentement de la personne. Jusqu'à cette date, la Cour de cassation bloquait. Il y avait une réprobation morale, effectivement. Ça n'est pas bien quand le petit ami ou la petite amie que l'on a quitté pour se venger diffuse des photographies intimes. Mais vous savez qu'il y a un principe juridique en droit. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Il n'y a pas d'infraction et il n'y a donc pas de peine sans loi, si une loi ne le prévoit pas. Et en l'absence de loi, la Cour de cassation annulait toutes les condamnations qui pouvaient être prononcées. Donc ce vide juridique, cette absence de prise en compte de cette problématique est réparée par la loi du 7 octobre 2016 et établie comme délit également le fait d'utiliser sans l'accord de la personne une photo que l'on a obtenue en confiance. Et puis la troisième évolution juridique, elle date du 3 août 2018 et elle renforce les outils de lutte contre les raids numériques. Dans le harcèlement, il y a l'idée de répétition. Donc quelqu'un pourrait se dire, oui, mais moi je n'ai fait qu'une fois, je n'ai posté qu'un message. Donc je ne peux pas être accusé de harcèlement. Et cette loi précise que lorsque les propos sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée, l'infraction est constituée. Donc nous avons aujourd'hui un corpus juridique solide. Nous verrons comment l'utiliser intelligemment. Bien sûr que les procureurs se posent la question. C'est d'ailleurs, à mon avis, une question que les référents académiques départementaux pourraient voir avec les parquets des mineurs. C'est certainement une matière à discussion, une matière à réflexion stratégique. La jurisprudence a établi de bonnes conduites, de bonnes pratiques, des injonctions pour une conduite à tenir. Si je résume les trois dernières jurisprudences que je n'ai pas le temps de développer, je dirais qu'elles demandent à toute école et à tout établissement de prévoir un protocole d'intervention. Ça, c'est la jurisprudence de Rouen, 2011, une jurisprudence ancienne, par une jurisprudence de janvier 2017 du tribunal administratif de Versailles. Le juge administratif nous dit qu'une fois que le protocole est mis en place, il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit appliqué. En l'espèce, ça n'était pas un défaut dans la mise en place d'un protocole, mais un défaut dans le fonctionnement. Et puis enfin, nous avons une jurisprudence également du tribunal administratif de Versailles, qui date de décembre 2017, qui dit que, en matière disciplinaire, à supposer, je suis d'accord sur la recherche de sanctions au caractère éducatif, hein, bien évidemment. Mais la question disciplinaire peut se poser. Ce que nous dit, ce que nous rappelle cette jurisprudence, ça n'est pas nouveau, c'est que le chef d'établissement qui a compétence, légitimité pour agir quand les faits se passent dans l'établissement pendant le temps scolaire, voit cette légitimité élargie aux faits qui se posent en dehors du temps scolaire, en dehors de l'établissement, à condition qu'un lien soit établi avec la qualité d'élève. Donc, on ne peut pas se laver les mains de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se passe sur le net. Vous voyez que Iman avait bien raison de poser cette intervention sous le thème de la responsabilité. Alors, en conclusion, deux remarques. D'abord sur le terme. Sur l'étymologie. Sur l'étymologie du harcèlement, je me suis aperçue que finalement, l'origine du terme, elle était double. Il y avait une référence agraire. Le harcèlement renvoie à la herse. Et la herse, c'est cet outil qui griffe superficiellement la terre par des petits coups d'aiguille répétés. Et il y a également une référence en éthologie, puisque le harcèlement renvoie au comportement d'animaux de petite taille qui unissent leurs efforts pour venir à bout d'un gros prédateur. Voilà ma contribution au débat sur le terme le plus approprié. Enfin, parce qu'il faut toujours voir plus loin et penser aux questions que nous allons travailler pour l'avenir. Je vous signale les travaux, ça sera ma dernière phrase, de Françoise Lantôme, qui est une sociologue, qui est chercheure à l'université de Lyon 2, qui mène une enquête internationale sur le thème religion, discrimination, racisme en milieu scolaire. Je l'ai entendue la semaine dernière dans une rencontre organisée par la DGESCO. Et ce qu'elle a constaté, c'est que dans le discours des enseignants, puisqu'elle travaille par enquête, il y a une faible perception du concept de discrimination. Le concept de discrimination apparaît peu. En revanche, ce qui est mobilisé, c'est celui de harcèlement. Donc, en écho avec les propos du ministre qui demandait que notre action devienne vraiment systémique et que nous intégrions également ce champ du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations, de l'homophobie, de la transphobie. Je pense que nous aurons à voir comment faire en sorte que ce terme de harcèlement, qui est bien repéré, qui a bénéficié de cette politique publique, qui est repéré comme étant performatif, comme mettant en mouvement les administrations, et c'est très bien, ne devienne pas un mot valise qui nous permette, enfin qui nous exonère de qualifier et de traiter d'autres problématiques. Je vous remercie.